aujourd'hui pour le podcast Hyper Croissance Ensemble, notre discussion d'affaires. Et comme à chaque semaine, j'ai la chance d'être avec nul autre que Jonathan Léveillé. Jonathan, on fait ça un petit peu plus tôt aujourd'hui, pas trop difficile?
Non, c'est bien Antoine, on est, faut le dire à l'auditoire, on est chacun sur notre continent ce matin là.
Effectivement, j'ai la chance de faire le podcast à un endroit qui fait pas tellement beau aujourd'hui à Barcelone, en toute honnêteté, il fait peut-être une dizaine de degrés puis il pleut, mais je pense qu'on s'en sort mieux que le froid quasiment catastrophique qu'on a été capable d'avoir au Québec récemment. Là.
J'imagine effectivement que la température doit être meilleure. On a eu des beaux moins 40 dans les dernières journées. Moi, j'ai eu la chance de faire la motoneige dans le nord à Paran en plein moins 48 degrés. Ça a été une expédition plus que qu'une promenade tranquille, disons.
Je suis toujours impressionné quand tu me dis que tu es capable de autant aimer l'hiver que ça. C'est vraiment un acte d'amour là, de pouvoir faire des activités à l'extérieur à moins 40. Je trouve ça totalement épatant. Moi, j'ai essayé pendant des années ces activités hivernales-là, Jonathan, mais ça n'a pas fonctionné. Et j'ai été obligé, on dirait, là, de m'expatrier tranquillement et d'aller dans des endroits un petit peu plus chauds. Et on en parlait avant le podcast, ça pourrait être un bon sujet à discuter ensemble aujourd'hui. Ce fameux digital nomadiste-là, un terme qu'on a beaucoup entendu dans les dernières années, comme quoi des employés, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des freelancers commencent à travailler d'un peu partout dans le monde. Quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que j'aimerais qu'on aborde un petit peu le sujet aujourd'hui, à savoir si oui ou non, ça peut être une bonne idée d'avoir des collègues qui travaillent de partout dans le monde sur des heures de travail totalement différentes. Est-ce que ça peut garder une entreprise efficace? Est-ce que ça peut être on parlait beaucoup de perks récemment pour les employés. Est-ce que ça peut être un perk d'offrir ça à nos employés? Est-ce que c'est maintenant quasiment un indispensable? Ou encore une fois, c'est quelque chose que certaines entreprises seulement vont offrir? J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Bien, je pense que c'est un excellent sujet, Antoine. Puis cette vague-là, je pense, de travail à distance dans d'autres pays, le fameux digital nomadisme, a énormément été accéléré. Je pense pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'aller se réfugier dans d'autres pays puis d'explorer cette possibilité-là pour fuir son propre pays d'origine. Je pense que n'importe quelle compagnie en technologie, on se fait demander souvent ou régulièrement par du staff, est-ce que je peux aller travailler dans un autre pays pendant un certain temps? C'est devenu pas mal une tendance. C'est devenu pas mal une demande. On se le fait demander là, chez nous, chez OpenMind. On n'a pas fait de programme spécial jusqu'à date là-dessus. Par contre, dans notre vision 5 ans qui s'étend jusqu'en 2027, on veut être capable de louer là, à chaque année un endroit où on peut envoyer les gens travailler, exemple au Costa Rica, pendant un certain nombre de semaines. Mais on ne l'a pas fait jusqu'à présent. Par contre, sur un autre côté, on a l'opportunité d'avoir un collègue qui est présentement en Asie. Et on le voit, là, les avantages et inconvénients d'avoir un collègue dans une autre zone horaire, dans une autre time zone. Et ça a son lot d'avantages et son lot d'inconvénients aussi. Je ne le cacherai pas au bout de la ligne. Mon opinion personnelle, c'est je pense que ça favorise beaucoup le côté positif pour l'employé qui va travailler à l'extérieur, mais ça rajoute quand même la friction, honnêtement, dans le processus pour être efficace. Puis on est 100% remote, 100% à distance, en télétravail, par Zoom, par Teams, avec cette personne-là. Et on le voit qu'il manque un petit quelque chose. Ça pourrait être plus facile si on avait de temps à autre la personne avec nous dans la même pièce, entre autres pour la cohésion d'équipe, l'appartenance, je pense, au bout de la ligne. Mais ça fonctionne quand même. Est-ce que c'est optimal en tant que chef d'entreprise? Moi, j'ai la perception que non. Je pense que toi, Antoine, t'as une autre opinion complètement différente que la mienne.
Je sais pas si c'est une opinion différente. Je pense qu'il y a une distinction entre le télétravail et le digital nomadisme. Là, je sais pas si en soi c'est un terme. Clairement, il y a des similitudes entre les deux, mais il y a une grosse distinction qui est, bien entendu, le décalage horaire. Et aussi, souvent avec le télétravail, ben, à un certain point, on part dans l'optique qu'on va aussi ramener les gens au bureau quelques fois par semaine. Là, si la personne, on s'entend, travaille dans un autre pays, dans un autre continent, un time zone, un décalage horaire différent également, ben là, c'est sûr et certain que c'est vraiment une confiance absolue qu'on est obligé de donner à cette personne-là parce qu'on la verra pas ou on la verra quasiment jamais. Et peut-être petite anecdote pour toi, Jonathan, jusqu'au 26 janvier dernier, et même encore à ce jour dans les faits, il y avait beaucoup de mes collègues que je n'avais jamais rencontrés en face à face. Parce qu'on a beaucoup de collègues qui sont en Europe. Le 26 janvier, on a fait une grosse soirée en équipe où est-ce que là, il y avait beaucoup de gens de la France qui étaient descendus. Certains n'étaient pas encore avec nous, mais tout de même, certains d'entre eux étaient venus. Donc, c'était la première fois que je les voyais. Et moi, je trouve qu'il y a une grosse différence entre le télétravail sur des heures locales et et vraiment les gens qui vont travailler à l'extérieur. Et la première distinction qui est excessivement importante à prendre en considération ici, c'est le décalage horaire, surtout si vous travaillez avec des gens qui font du service client. Si vous travaillez avec des collègues qui sont davantage orientés sur ce qu'on pourrait dire project-based, c'est-à-dire qu'ils ont un mandat à livrer et ils ont un échéancier qui peut varier entre 1, 2 ou 3 semaines, bien là, au final, les heures que cette personne-là va travailler peuvent être importantes, mais ne seront pas autant importantes que si cette personne-là a un client à rencontrer, répondre à des emails des clients, faire des Zooms, faire des Teams avec cette même personne-là, également collaborer en équipe pour s'assurer que le client soit heureux. Donc, une très, très grosse distinction entre les deux types de travail ici. Dans notre organisation, nous, on segmente ça entre le département stratégique qui est davantage relié aux relations clients et le département créatif qui, eux, font des contenus, des publicités. On pourrait les mettre davantage dans ce qu'on pourrait considérer le project base. Donc, nous, ça, c'est la première question qu'on se pose. Quand une personne va travailler de l'extérieur, dans quel type de catégorie de travail elle s'insère, cette personne-là? Parce qu'il va y avoir des distinctions entre les deux. La personne qui va travailler au niveau du service client, et bien entendu, son portfolio de clients risque d'être majoritairement orienté dans le même décalage horaire que cette personne-là travaille. Sinon, il peut y avoir des frictions. Ce n'est pas toujours le cas, mais on essaie le plus souvent qu'autrement que ça soit le cas. Parce que sinon, on l'a vu dans le passé, ça peut causer des enjeux si la personne, bien entendu, veut travailler sur des heures de travail qu'on pourrait considérer raisonnables, c'est-à-dire un genre de 10 à 6 ou peut-être 11 heures à 19 heures maximum, heure Europe, pour par la suite, bien entendu, avoir ses soirées. Mais si cette personne-là fait ces heures-là, bien entendu, on ne pourra pas lui donner nécessairement beaucoup de clients d'Amérique du Nord. On a des collègues qui ont pris la décision de travailler de l'Europe avec les heures de l'Amérique du Nord. Donc ici, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un des premiers points qui est très, très important, je pense, à prendre en considération. Également, de notre côté, récemment, on a fait une rencontre où est-ce qu'on a intégré énormément de nouvelles politiques reliées au télétravail ou au digital nomadisme parce que il y a beaucoup de non-dits dans le télétravail. Et moi, s'il y a une chose que j'ai appris depuis le début de la COVID et tout ce MBA-là qu'on a fait sur le télétravail depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est qu'à un certain point, tu te dois de serrer la vis. À un certain point, tu te dois de serrer la vis avec des politiques claires. Parce que plus que ton entreprise grossit, de plus en plus que des niveaux de personnes qui rentrent dans l'organisation et qu'entre ces niveaux de personnes-là, il y a ce qu'on pourrait appeler un peu des middle managers. Et que si les choses sont pas dites clairement, il y a des assumptions qui peuvent être faites. Meilleur exemple, est-ce que j'ai le droit, pendant que je travaille, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de m'absenter pendant 2-3 heures pendant la journée et d'aller faire des commissions et de retravailler par la suite? Bien, la réponse peut être oui, mais la réponse peut également être non. Mais si ça, c'est pas dit, ultimement, les gens se font leur propre réalité et vont pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et nous, ça a créé des enjeux. Ça a créé des enjeux parce que des fois, on avait besoin de quelqu'un, mais cette personne-là n'était pas présente. Et on n'avait pas mis clair qu'elle ne pouvait ou qu'elle ne pouvait pas être partie pendant certaines heures. Et ça, c'est un des exemples qui peut revenir excessivement souvent. Mais le point peut-être qu'on pourrait partager à l'audience aujourd'hui, du moins moi de mes expériences, et peut-être tu pourrais également terminer sur ce point-là par la suite, Jonathan, c'est de dire, un, essayez de vous assurer dans quelle catégorie cette personne-là fait partie. Il y a sûrement plusieurs autres catégories qui s'intègrent dans votre organisation. Nous, c'est service client et le volet créatif qui pourrait être lié à du project base, qui, à mon avis, chez toi, Jonathan, ça doit être très orienté sur des développeurs ou des gestionnaires de comptes, des gens qui sont en relation client pour s'assurer que la relation se déroule bien, numéro un. Numéro deux, par la suite, mettez des politiques claires sur quand on peut s'absenter, quelles sont les heures de travail, quels sont également les signaux pour faire un genre de cri de ralliement, OK? Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que tu es en train de travailler? Est-ce qu'il y a une manière qu'on est capable de le savoir? Est-ce qu'il y a un message qui doit être mis sur Slack? Est-ce qu'il y a il y a peut-être une petite notification que tu dois donner à ton supérieur immédiat? Bref, on doit se donner un peu des signaux selon des points de ralliement sur des choses qui sont en train de se dérouler. Et si ces politiques claires ne sont pas intégrées, ça peut être correct à court terme. Mais plus votre entreprise grossit, moi je l'ai vu, plus vous allez en voir des enjeux sur le moyen terme. Donc ça serait des points importants à considérer, mais je pense qu'un autre point, moi, personnellement, je le vis présentement. Je suis à Barcelone et je risque de passer une bonne partie de mon temps dans cette ville-là. C'est donc incroyable aussi. C'est donc incroyable de pouvoir donner cette possibilité-là. Si vous êtes capable, en tant qu'organisation, de bâtir l'infrastructure et de pouvoir donner la possibilité à vos collègues de travailler un petit peu partout et de rendre ça efficace avec des politiques claires, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, l'avantage est sensationnel, là. L'avantage est sensationnel parce que c'est beau voyager et c'est beau être capable de mixer travail et voyage en même temps. encore une fois, si je le répète, si les politiques sont claires, et bien entendu, si c'est efficace.
Mais ça revient beaucoup, comme tu disais, une question politique, de les faire suivre et de s'assurer que tout le monde embarque dans l'aventure au bout de la ligne. J'ai une étude devant moi quand même assez intéressante qui a été conduite en 2022 par abroadaboard.com, qui est un site web par rapport au voyage et digital nomadisme. Quelques statistiques intéressantes sur ce, je dirais pas ce phénomène-là, parce que c'est rendu très répandu à travers la planète. Il y aurait, selon cette étude-là, au-delà de 35 millions de personnes en mode digital nomade à travers la planète. Si on met en perspective, c'est comme si on dirait pratiquement 100% des gens au Canada seraient en mode digital nomade. Donc, ça fait beaucoup de gens. Et en termes de valeur économique, on parle d'au-delà de 787 milliards de dollars US, donc pratiquement un trilliard canadien de volume de dollars qui est généré en termes de travail par ces gens-là à l'échelle mondiale. C'est quand même beaucoup de sous. Et quelques trucs intéressants, l'âge moyen, à peu près, c'est souvent des gens dans la trentaine, 47% des gens sont dans la trentaine, mais l'âge moyen est 40 ans en termes de l'âge moyen.
Plus vieux que ce que je pensais.
Oui, fait que dans l'étude, on voit autant des gens de la vingtaine jusqu'à dans les 70 ans. Là. Et le nombre d'années moyen que les gens étaient en voyage ou en mode digital nomade était de 6,1 années. Donc, quand les gens partent en mode digital nomade, généralement, ils restent dans cette, je dirais pas un état, mais dans cette philosophie-là ou cette manière-là de travailler et de voyager en même temps. Et la fameuse raison numéro un pourquoi que les gens retournent au bercail, c'est la solitude. Donc, on se le cachera pas, ça nous éloigne un peu, je pense, de nos familles, nos amis. Donc, et de loin, la première raison, c'est la solitude pourquoi les gens reviennent au bercail au bout de la ligne. Par contre, on parle du côté travail, 17% des gens avaient un emploi avec une entreprise et 83% des gens étaient en mode travailleur autonome. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant, cette statistique-là. Donc, et plus de la moitié des travails qui étaient faits en mode digital nomade, c'était des gens dans le marketing. Donc, Antoine, ça te parle. Ensuite, des développeurs, donc ça me parle. Des designers, des gens qui rédigent des articles ou journalistes. Et des experts de commerce électronique. Donc, ça représente plus de la moitié des gens qui ont été interviewés. Donc, l'industrie, effectivement, du digital, du marketing, du développement, du commerce électronique est un grand, je dirais, bucket qui rassemble beaucoup de digital nomades au bout de la ligne.
Et je pense que c'est très intéressant. On mettra dans les notes de l'épisode le lien de l'étude que tu viens de nous mentionner, Jonathan. Et je pense aussi qu'il y a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire. Souvent, quand on pense à digital nomade, très rapidement, la première chose qui nous vient en tête, c'est quelqu'un qui est sur la plage avec son laptop en train de travailler. Ça, c'est comme une image classique. Mais ce qu'on est surtout en train de dire ici, et je pense que moi, ça va être là la distinction que je vais faire, c'est que je vais pas changer d'endroit où est-ce que je vais travailler à toutes les 2 ou 3 semaines. Je l'ai vu dans le passé avec certaines personnes qui ont testé l'approche. C'est pas fonctionnel parce qu'à un certain point, tu te dois de prendre certaines routines, d'être installé à un endroit pour être productif. Si continuellement, tu es dans des transports, tu es en train de changer, tu dois regarder pour un nouvel appartement, tu dois regarder pour peut-être même des fois une nouvelle langue parce que tu es dans un nouveau pays. Il y a beaucoup trop de distractions qui t'empêche d'être 100% focus au niveau de ton travail. Moi, j'aborde beaucoup plus dans l'optique de dire d'aller s'installer à un endroit et de s'y intégrer pour une bonne partie du temps. Pour une bonne partie du temps, dans le cas ici, de mon cas personnel, c'est davantage ce que je vais faire que de bouger d'une ville à l'autre et de m'installer sur la plage. Non, au contraire, je vais prendre un bureau dans une nouvelle ville et je vais travailler d'une nouvelle ville. Donc ça, et ça, je pense que c'est un point qui est important aussi à se rappeler, on se doit de s'enraciner un petit peu. Parce que sinon, si on a à recommencer l'exercice à chaque semaine ou à chaque mois d'une nouvelle ville, et là, ça devient quand même compliqué parce qu'à chaque fois que tu bouges, il y a tout le temps plein de petits détails administratifs, autant au niveau personnel que professionnel, que tu dois prendre en considération. C'est pas des nouvelles taxes, si c'est pas peut-être d'ouvrir des nouvelles organisations dans un nouveau pays, de quel pays vas-tu être résident? Il y a plein de points comme ça qui sont à prendre en considération. Et je pense que t'es mieux de peut-être y aller une étape à la fois au lieu de bouger d'un pays à l'autre à toutes les 2-3 semaines. Là.
Est-ce qu'à ce moment-là, le terme digital nomade s'applique toujours si on est toujours au même endroit ou du moins qu'on n'a pas de vue de bouger? Parce que la réalité, si on prend le mot nomade, c'est une personne qui n'a pas de lieu fixe ou de port d'attache ou de maison à un endroit fixe. Donc, est-ce que c'est plus un déménagement peut-être de résidence, je dirais, presque permanente? Ça serait discutable à ce moment-là. Parce que dans mon livre à moi, Digital Nomade, c'est quelqu'un qui va bouger peut-être au maximum 8, 12, 16 semaines. Puis il existe des belles communautés mondiales qui c'est des entreprises, dans le fond, qui ont plusieurs endroits, un peu comme des WeWork, souvent sur le bord de la mer, dans des endroits qui sont assez paradisiaques. On peut s'abonner à ces entreprises-là et de se promener d'un endroit à l'autre à ce moment-là et d'être certain d'avoir accès à de l'Internet haute vitesse de qualité, un endroit pour travailler dans un endroit qui est calme et qui est tranquille. Mais il y a quand même beaucoup de choses autour à ce moment-là qui permettent de profiter du nouvel endroit qu'on se promène d'une place à l'autre. Et il y a aussi la communauté qui est là, le mindset qui est là, des gens qui veulent apprendre à connaître d'autres gens, à connaître des nouveaux pays. Fait que ça, c'est une belle option aussi pour les gens qui veulent se promener, découvrir du pays, mais avoir quand même un bel endroit facile d'accès pour être de travailler et d'être productif aussi. Parce que c'est un des problèmes, je pense, si on se promène beaucoup, d'être productif, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne connexion Internet, un endroit calme. C'est, je pense, un des défis pour ce type de personnes-là, les fameux digital nomades, peut-être plus puristes.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
Et peut-être pour le mentionner, nous, nos bureaux à Montréal où notre siège social est situé sont dans les WeWork. Et quand je travaille à distance, donc à Barcelone ici, où j'ai des collègues français qui vont travailler en France également de bureau, ils sont capables d'utiliser également ces espaces-là pour le même prix qu'on paye déjà. Donc, c'est aussi de prendre en considération, ça va être quoi les outils que vous allez devoir utiliser si vous allez ailleurs. WeWork, c'est totalement formidable parce que tu es capable d'avoir ces salles de travail, tu es capable d'avoir, comme tu le dis, ces Wi-Fi, ces cafés à volonté, ces thés à volonté, etc., qui donnent énormément de possibilités à la fin de la journée. Donc ça, je pense que c'est un point clairement à considérer si on a bougé, où est-ce qu'on va travailler dans tout ça. Jonathan, tu avais peut-être quelques... Oui, vas-y, Jonathan.
Je serais curieux, parlant de WeWork, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux. On a fait quelques épisodes au départ ensemble durant la pandémie et il y avait la fameuse débandade de Adam Newman. Je pense qu'ils ont finalement accédé à ouvrir le capital en bourse en cours de route, mais on attend beaucoup moins parler d'eux. Donc, ton opinion à toi qui est dans les bureaux de WeWork depuis très longtemps, comment ça s'est passé durant la pandémie pour aujourd'hui? Est-ce que le taux d'occupation a descendu à un point tel qui était problématique puis ça l'a remonté ou... Je serais curieux d'avoir ton opinion, Antoine, là-dessus.
Oui, puis c'est tellement drôle parce qu'au moment où on se parle en ce moment, je suis en train de regarder la valorisation boursière de l'entreprise. On pourra en parler un petit peu par la suite. Donc oui, ce qui est important de comprendre avec WeWork, c'est une organisation qui a fait... Je crois que c'est sûrement une des organisations qui a été un petit peu l'élément déclencheur de se dire à un certain point, à un moment donné, stop. Stop, l'injection de capital continue sans aucune... preuve de profitabilité sans aucune gage de rentabilité avec une organisation, ça suffit, on arrête ça. Parce que c'est ce qui s'est déroulé. À certains points, l'organisation WeWork valait 50 ou 60 milliards de dollars, je pense, ou peut-être un petit peu moins, mais dans ces eaux-là. Et il n'avait jamais généré de revenus et perdait des milliards de dollars par trimestre. Donc ça, c'est factuel. Il y avait des chiffres là totalement extraordinaires, mais au sens négatif, qui se déroulaient en termes de revenus de l'organisation. Donc, bon, le CEO qui était très en vue a quitté. Je pense qu'on avait même fait un épisode là-dessus à un certain point. Et là, à partir de là, ils ont ramené d'autres actionnaires. C'est une banque là maintenant qui est l'actionnaire majoritaire, qui d'ailleurs, c'est cette banque-là qui avait injecté le maximum de capital. Je me rappelle pas exactement du nom. Je pense que c'est SoftBank, mais bon, c'est à regarder un petit peu. C'est SoftBank, bon. Donc, c'est eux vraiment qui ont repris tout ça. Et qu'est-ce qui s'est déroulé? Ben là, du moment qu'il y a eu cette débandade-là, s'en est suivi la COVID. Pendant, en tant qu'occupant de WeWork, pendant la COVID, ben bien entendu, ils ont été d'une gentillesse, je pense qu'il n'y avait pas le choix, incroyable avec leurs membres, c'est-à-dire de pendant quelques mois, de ne pas faire payer des loyers. La distinction ici à prendre en considération est la suivante, c'est que quand tu rentres dans WeWork, comme à peu près n'importe quel endroit où est-ce que tu es locataire, tu as à payer des dépôts au départ, qui peuvent varier entre 2 et 3 mois de location. Donc, on fait des chiffrons. Si ton loyer est de 5 000 $ par mois, tu donnes à WeWork au départ peut-être un 10 ou un 15 000 $ pour sécuriser l'endroit où est-ce que tu es. Et là, moi, ce que j'ai compris à un certain point, c'est que c'était plus avantageux pour eux dans leur situation d'offrir des mois gratuits que d'accepter les départs de certaines personnes et de payer les dépôts. Parce que là, on était dans une situation où est-ce qu'il y a juste un manque de liquidité après toutes les erreurs qui ont été faites dans le passé, une organisation excessivement non profitable et une COVID, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté les bureaux, ben eux devaient trouver une manière de calmer un petit peu tout ça, de calmer l'avalanche. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont donné beaucoup de possibilités aux gens comme nous de ne pas payer pendant quelques mois. Ce qui a fait que moi, j'ai gardé mon abonnement avec WeWork. Et pendant un certain temps, pendant 3-4 mois, personne n'est allé au bureau. Donc, ça n'avait quasiment aucun sens de garder l'abonnement. Mais bon, avec cette politique-là, on a gardé tout ça. Qu'est-ce qui s'est déroulé aussi par la suite? Ben, clairement, quelqu'un qui était là chez WeWork il y a 5 ans et qui est là maintenant, faut pouvoir vous dire la différence entre les deux environnements. C'est assez, c'est deux mondes. T'sais. Je veux dire, quand tu arrivais chez WeWork il y a 5 ans de ça, bière à volonté, soirée 2-3 par semaine, des gros parties qui se déroulaient dans les environnements WeWork, des lunchs qui se déroulaient à tous les lundis matin en mode déjeuner pour tout le monde. Bref, c'était extravagant les avantages que tu avais. Ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas. Il y a des beaux avantages, il y a des bons cafés, il y a des bons thés, il y a des beaux endroits où travailler. Là, on n'enlèvera jamais ça à WeWork, mais c'est plus la même dynamique. Ils ont été obligés, encore une fois, on reprend ce terme-là aujourd'hui, de resserrer la vis parce qu'ils perdaient beaucoup trop d'argent. La COVID est passée et quand tranquillement les choses ont repris, ben là, WeWork est devenu un petit peu un endroit de choix. Un endroit de choix pour beaucoup d'organisations parce que beaucoup d'entreprises dans les dernières années ont pris la décision d'être un peu travail à distance et un peu travail dans les bureaux. Et là, c'est là qu'une structure comme WeWork devient très intéressante parce que là, tu peux avoir des bureaux qui sont déjà créés pour toi, entre parenthèses, que tu n'as pas nécessairement à refournir. Et là, tu peux payer un certain montant et donner la possibilité à tes employés d'aller travailler là-bas sans nécessairement avoir de la place pour tout le monde parce que c'est pas l'objectif. C'est rare que tout le monde va travailler en même temps au bureau. Mais simplement de donner la possibilité d'avoir un bureau, c'est un gros avantage. Et depuis cette sortie de COVID, clairement, tu parles du moins les gens à Montréal. Je sais pas exactement ce qu'il y en a en Espagne, mais de ce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans le bureau. Les taux d'occupation sont élevés. C'est pas tellement facile de trouver un bureau WeWork présentement à Montréal. Il y a des taux d'occupation qui ressemblent à ce qu'il pouvait y avoir juste avant la COVID. Donc, ils ont repris clairement du poil de la bête. Ça a l'air de bien se dérouler. Là, d'un autre côté, je dis ça. Donc, moi, c'est ce que j'entends. Je suis allé voir la valeur boursière. On n'a pas la même...
Ouais. C'est fou, Antoine, la valeur boursière. Et je vais donner des chiffres après au niveau des revenus et des profits, ouais. Mais je te laisse parler de la valorisation boursière. Ben, ça n'a aucun sens.
Oui, puis là, je te dis ça. Il faut segmenter deux choses. Moi, je t'ai donné le feedback d'un occupant WeWork, de ce qu'il a vu, une personne qui a essayé de se trouver un bureau, et également des échos qu'on a eus. Si on regarde maintenant les chiffres, effectivement, là, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'ils ont fait une entrée boursière à une valeur de l'action qui était à 9,82. Ouais. Ou à peu près 10 $ si on résume ça. Et en ce moment, on est à peu près 2 $ Donc, clairement, il y a une division par 5, une capitalisation boursière à 1,41 milliard. Clairement, bon, eux, ça n'a pas été facile non plus, on va dire ça, dans la dernière année. Mais bon, combien d'entreprises en 2022? Parce que vraiment, la chute a eu lieu en 2022. Si tu regardes bien la sortie de COVID, l'action était à son plus haut au mois d'octobre 2021. Tu voyais 13 $ Et là, par la suite, 2022, comme à peu près toutes les entreprises tech, c'était la descente aux enfers.
Mais c'est un peu fou. Par contre, si on regarde les revenus et les profits, c'est encore hallucinant. Puis moi, ça me pose la question, est-ce qu'ils vont frapper un mur un jour? Parce que ça fait pas de sens, là. Si on regarde avant COVID, là, en 2018, à peu près 2 milliards de revenus. En 2019, à peu près 3,5. La COVID arrive, on stagne à 3,5. Et en 2021, baisse de 25% des revenus pour 2,5 milliards. Mmh. Là, sur un 12 mois, là, une traînée de 12 mois, on a remonté au-dessus des 3 milliards. Donc, il semble aller dans la bonne direction. Par contre, moi, ce que j'aime, c'est de regarder les profits, là. Ouais, ça n'a aucun sens.
Il
n'y
en a pas beaucoup, hein.
Et mon Dieu. Avant COVID, en 2019, on regarde l'EBITDA directement. Okay, je vais vous donner ce chiffre-là, là. Donc, en 2019, il perdrait 3 milliards, un peu plus que 3 milliards. En 2020, 3,3 milliards. En 2021, 4,3 milliards. Par contre, là, la dernière année, dans les 12 derniers mois, là, une traînée de 12 mois, ils perdent seulement, et je mets entre parenthèses, 1,3 milliard. Donc, ils semblent s'en aller du bon côté au niveau du profit, mais mon Dieu, ils perdent à peu près l'équivalent de leur valorisation boursière en 12 mois. Ça n'a aucun sens.
Mais je pense que l'année 2023 va dicter un petit peu le tempo parce que malheureusement, les grosses initiatives qu'ils ont faites sur le redressement de l'organisation ont été jumelées 3 semaines après quasiment avec l'arrivée de la COVID, qui était la pire chose qui peut leur arriver. Donc non, la pire chose qui peut leur arriver, ça aurait été de pas faire ce redressement-là et de traverser la COVID avec le même CEO. Ça leur aurait été un autre type de catastrophe, là. Mais bon, ils ont fait le redressement. On l'a vu, 2021 et 2020, ça a été 2 années encore pires parce que là, il y a eu la COVID. Mais là, tu vois, 2022, c'est 1,3 milliard. 2023 risque d'être une année charnière pour eux. S'ils sont encore sur des énormes pertes, là, clairement, le marché va se dire, ben là, vous avez pas le bon modèle pour vous redresser. S'ils sont capables de démontrer quelque chose d'intéressant, peut-être même un profit, qui sait, ça pourra peut-être être une histoire différente.
Ce qui est intéressant, c'est que nous, notre côté, nos bureaux sont sur la rive nord à Blainville. Dans une des phases d'agrandissement, on avait regardé pour faire une section coworking, puis on essayait de rouler les chiffres, puis on disait, mon Dieu, comment qu'ils font pour être vraiment rentable? Puis à l'époque, c'était privé, les chiffres, c'était pas public, puis on dit, ça n'a pas de sens. On n'arrive pas, nous, à boucler un budget qui fait du sens avec tout ce que WeWork ou les équivalents de WeWork donnaient comme avantage. Ouais, ça fonctionnait juste pas, puis on a décidé que juste dans un fichier Excel, de se dire, ça marche pas, là, c'est complètement illogique, donc on n'a pas avancé dans ce projet-là. J'ai la perception que ça va probablement faire un impact ou un effet de levier sur tous les petits coworking autour qui,
bien sûr,
excusez-moi l'expression, mais devaient se baisser un peu les culottes pour attirer les gens versus un WeWork de ce monde qui pouvait brûler de l'argent puis il n'y avait pas de problème. Donc, ça aura probablement un impact sur nos propres entreprises au niveau des pieds carrés de location, autant pour le court que le long terme. J'ai hâte de voir l'effet dans les prochains mois devant nous, là.
Non, clairement. Je pense que c'est à suivre, mais bon, on reprend la casquette du consommateur. C'est totalement fantastique d'être dans leurs environnements parce que n'importe quelle, entre parenthèses, grande ville dans le monde offre plusieurs WeWork dans sa ville. Et ça, c'est un avantage que je pense qu'un compétiteur pourra quasiment jamais leur prendre. C'est-à-dire, ils sont partout. Il y a une valeur incroyable d'être dans toutes les localisations. Ça va se payer, bien entendu. Ça a un prix, tout ça, un prix qui fait mal un petit peu à entendre quand on regarde de plus en profondeur les chiffres, mais le fait d'être partout donne la possibilité à un consommateur et surtout dans l'optique de la conversation qu'on vient d'avoir aujourd'hui, d'offrir la possibilité à ses employés de travailler un petit peu partout. Cet aspect-là, s'il est bien marketé, s'il est bien compris par l'ensemble des gens qui pourraient être des clients cibles, c'est un avantage incroyable. C'est un avantage incroyable pour faire le saut. Il y a beaucoup de grandes organisations, d'ailleurs, qui ont fait le saut avec WeWork. Une d'entre elles est Cossette, qui avait des très, très gros bureaux à Montréal, qui ont décidé de tout transférer chez WeWork. Il y en a d'autres également d'entre elles, mais c'est pour dire qu'ils sont quand même bien positionnés.
Et si on regarde les états financiers, puis on se met dans les souliers du client, c'est comme si WeWork faisait un rabais à peu près de 50% de la valeur réelle que ça devrait être au niveau du pied carré de location. Donc, WeWork subventionne un peu la valeur réelle que les gens devraient payer devrait être plus élevée que ça au bout de la ligne. Donc, c'est un peu une aubaine pour le côté client à l'heure actuelle.
Ah, il y a des avantages. À nous de les saisir. Donc, Jonathan, un bon 30 minutes de discussion aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres points à mentionner avant que je te laisse filer?
Très rapidement, Google a annoncé qu'ils allaient riposter à ChatGPT. Ça fera probablement le sujet principal d'un futur podcast ensemble parce que hier, ils ont sorti la nouvelle qu'ils allaient sortir, qu'ils travaillaient depuis 2 ans sur un robot nommé BARD, BARD. Encore là, on peut peut-être questionner le nom, difficile à dire. Et que ça va être rendu disponible au public dans les prochaines semaines. Ils n'ont pas été clairs sur quand, mais ils sont vraiment en mode alerte rouge envers OpenAI. Leur modèle d'affaires est grandement menacé présentement chez Google. Surtout que OpenAI a une alliance extrêmement forte avec Microsoft qui va déployer cette technologie dans Bing dans les prochaines semaines. Et ça a été annoncé que ça ne serait pas la version 3.5 que Microsoft allait déployer dans Bing, mais la version 4 du moteur là, en arrière d'OpenAI. Donc, ça risque d'être exponentiellement plus efficace et fort que ce qu'on voit présentement avec ChatGPT. Et je fais une parenthèse. Hier, j'écoutais un YouTube du CEO de OpenAI et c'était un fait intéressant. Il disait, écoutez, ce qu'on a sorti avec ChatGPT, il n'y avait rien de nouveau, là. Ça faisait 10 mois que le modèle existait et on s'attendait que quelqu'un sorte cette fameuse interface-là de chat et on regardait ça aller et personne ne l'a fait. Fait qu'on l'a fait. Mais ça a été spécial parce que ça faisait des mois et des mois que la technologie était disponible et personne n'a pris avantage de développer ce produit-là ou cette interface-là. Et là, ils n'ont pas eu le choix de le sortir eux-mêmes. C'est très surprenant.
Je pense que tout le monde était au courant qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle, mais il y a deux grosses distinctions, selon moi, de ce qui a fait le succès de ChatGPT. Numéro un, la facilité, la simplicité de résumer ça simplement dans une barre de chat. Comparativement à d'autres logiciels qui ont plus de complexité, c'est fantastique. Donc, tu es capable, littéralement, tu poses une question, tu as une réponse. Numéro deux, c'est que c'est gratuit aussi. C'est-à-dire, ils ont travaillé un petit peu cette fameuse approche que j'ai eu la chance d'avoir des gens sur le podcast qui nous ont expliqué que tu as eu la chance sur ton podcast pivot d'avoir le CEO de GSoft qui explique cette fameuse product-led growth. Donc, tu laisses le produit faire ses preuves par lui-même et ultimement, tu essaies d'amener un forfait premium où est-ce que les gens vont devoir payer, qui est d'ailleurs, je pense, le cas, pas nécessairement pour tout le monde, mais il y a une version payante maintenant de ChatGPT. Donc ça, c'est un exemple parfait de laisser le produit faire son travail pour par la suite essayer de monétiser le tout derrière.
Effectivement, et ça sera peut-être intéressant dans les prochaines journées ou semaines de s'en parler. Demain, on organise avec plusieurs personnes clés de l'organisation un sprint pour valider comment qu'on peut donner un effet de levier dans notre productivité chez OpenMind, mais également de prendre cette technologie-là puis l'intégrer dans nos produits qu'on développe pour nous et pour nos clients, là, autant dans l'Open Lab que dans la production client. Donc, ça pourrait peut-être intéressant là, de donner un petit peu d'insight par rapport à ce sprint qu'on fait demain avec l'ensemble, avec une bonne partie là, des leaders de notre équipe. Là.
Un bon prochain sujet de podcast, ça c'est clair. Jonathan, autre chose qui te vient en tête avant que je te laisse filer?
C'est complet de mon côté aujourd'hui, Antoine.
Fantastique. Bon, ben merci beaucoup. J'espère que les informations qu'on vous a partagées sur le digital nomadisme, sur peut-être l'environnement de WeWork, qu'on n'avait pas pensé discuter, mais qui a été une belle discussion également, ça vous aide à peut-être penser à votre business de manière différente, à commencer peut-être même votre journée, on l'espère. Donc, toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Percroissance.